Ce matin, je suis là pour poursuivre la série qu'on a commencée depuis plusieurs semaines, donc dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et on est déjà rendu, mine de rien, au 11e exposé, donc aujourd'hui dans la série « Explorer la joie en son nom ». Donc on va poursuivre, mais j'aimerais juste faire un petit retour sur l'exposé du pasteur Yannick la semaine dernière. Donc dans le dernier exposé, nous avons été invités à être des imitateurs de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Des gens qui, par leur vie et leur persévérance, sont devenus pour nous des modèles, des exemples à suivre. Mais aussi, la semaine dernière, il était question des exemples, des mauvais exemples, j'allais dire, de personnes qui se sont eux-mêmes érigées en ennemis de la foi et dont la fin certaine est la perdition éternelle. Donc, c'est dans ce même esprit que le texte qu'on va lire dans les prochaines minutes va venir. C'est dans ce même esprit que Paul, qui arrive quasiment à la fin de sa lettre aux Philippiens, va donner une série de recommandations, donc, à l'église de Philippe. Généralement, quand on écrit une lettre a une forme qui est quand même reconnaissable. Et généralement, à la fin d'une lettre, c'est souvent le bon moment pour parler avec son cœur, où on va énoncer un certain nombre d'éléments qui nous sont vraiment très personnels. Généralement, c'est à la fin d'une lettre qu'on va exposer ça. Bon, maintenant, s'il y a des jeunes dans la salle, des plus jeunes dans la salle, on n'écrit plus les lettres, on envoie un message texte via les réseaux sociaux ou via les systèmes de messagerie instantanée. Et à la fin, effectivement, quand vous écrivez un mot à un de vos amis, à quelqu'un, à une connaissance, une personne qui vous est chère, vers la fin, vous allez lui dire des choses que vous voulez qu'il retienne du message que vous lui avez envoyé. Et même souvent, à la clé, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez quelques cœurs ou quelques roses pour qu'il s'en souvienne naturellement. C'est un peu le sens un peu des textes qu'on va lire à partir du chapitre 4 de Éphésiens, où Paul, après avoir répondu tout au long de cette lettre à des questions théologiques importantes, maintenant va s'adresser vraiment à un groupe particulier de personnes. Des personnes qui semblaient être encore beaucoup plus proches de Paul, des personnes avec qui Paul avait vraiment travaillé. Donc, il leur adresse une série de recommandations qui étaient vraiment très, très personnelles. Donc, on va le voir dans le texte tout à l'heure. Et ces cas ne sont pas des cas isolés qui se retrouvent seulement dans l'église de Philippe. On voit que ces cas aussi peuvent nous interpeller. Donc, l'église aujourd'hui, l'église de l'espoir aujourd'hui peut apprendre beaucoup en regardant dans ces recommandations, dans ces dernières recommandations de Paul, en regardant quels sont les modèles, les exemples que nous devons suivre, mais aussi, naturellement, quels sont les exemples ou des modèles que nous ne devons pas suivre. Donc, on peut apprendre dans notre propre, pour notre propre vie, mais aussi pour la vie de l'Église en tant qu'assemblée ici. Et si on regarde un peu dans le texte qu'on va lire tantôt, la principale préoccupation de Paul, c'était que les gens qui lui étaient très proches, les gens avec qui il était très intime dans une certaine mesure, soient conscients de leur impact. Ils soient conscients de l'impact qu'ils avaient. Et cet impact-là, ils l'avaient parce que cet impact-là avait un lien direct avec la proclamation de l'Évangile. On va le voir dans les prochaines minutes. Donc, avoir la joie en son nom, ce n'est pas juste un mantra. Depuis plusieurs semaines, dans chacun des exposés, on nous parle d'avoir la joie en son nom. Est-ce que c'est juste une belle phrase qu'on prononce? C'est un mantra sans aucun but? Non, bien-aimé, ce mantra, si c'était une parole, cette parole vise un but particulier. C'est pour faire la proclamation de l'Évangile. C'est pourquoi j'ai intitulé tout simplement l'exposé ce matin « Pour la cause de l'Évangile ». Et ce matin, je vais tenter de répondre à une seule question. Que pouvons-nous faire, individuellement, naturellement, mais aussi collectivement, pour pouvoir contribuer ou pour pouvoir soutenir la cause de l'Évangile? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ce matin. Nous allons prier et nous allons lire le texte de ce matin. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes là parce que nous voulons te rencontrer. Et Seigneur, tu as quelque chose de précieux à nous apprendre ce matin au travers les exemples que nous allons voir. Seigneur, je prie ce matin afin que tu viennes nous parler. Certes, Seigneur, j'aimerais simplement qu'aux yeux de ton peuple, que ce soit toi qu'il voit. Seigneur, je ne veux pas apparaître devant ton peuple. Je veux que ton peuple te voie. Seigneur, utilise-moi comme un simple canal pour transmettre ta parole à ton peuple. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, viens nous parler ce matin. Viens, Seigneur, nous instruire au travers des exemples, des modèles à suivre. Mais viens nous instruire au travers des exemples, des modèles que nous devons éviter. Parce que, Seigneur, ils ne sont pas à la gloire de ton nom et ils ne viennent pas soutenir la proclamation de l'Évangile. Éternel notre Dieu, viens et que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple ce matin. C'est dans le nom de Jésus et pour sa gloire que nous prions. Amen. Nous allons lire le texte.
Bonjour, alors nous commençons le chapitre 4 de Philippiens avec les versets 1 à 3 et nous lisons dans la nouvelle édition de Genève. Philippiens 4, 1 à 3. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.
Merci, Esther. Amen. Donc, c'est un texte assez court, mais nous allons voir ce matin que c'est un texte qui est extrêmement riche. Et je ne sais pas si le pasteur Yannick fait exprès, mais je ne pourrais pas, il répondra de lui-même. Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de vous apporter la parole ces derniers temps, je suis tombé sur un texte sur lequel il y avait une expression que j'affectionne particulièrement. Et ceux qui me connaissent ont fini par me donner ce surnom « bien-aimé ». Et aujourd'hui, malheureusement, ça ne fait pas défaut. Le texte commence par cette expression « mes bien-aimés ». Donc, je me réjouis parce que je ne crois pas que Dieu est un Dieu de hasard. Je crois que Dieu est un Dieu de providence. Dieu sait pourquoi, parce que cette expression me tient particulièrement à cœur, pourquoi il me donne l'opportunité de vous partager la parole autour de ces deux « et » pour votre gouverne. Je me suis trouvé une nouvelle expression pour faire un peu changement. Donc, pour faire un peu changement, je me suis trouvé une nouvelle expression. C'est mes très chers frères et sœurs. Donc, ça fait un peu changement. Donc, ça, c'est la nouvelle expression. Regardez avec moi le verset 1 d'entrée. Verset 1, donc, de Philippiens 4. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est quand même assez surprenant. C'est surprenant que sur les 24 mots que constitue ce verset, 8 des 24 mots sont en lien avec cette expression, mes bien-aimés. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a-t-il jugé important, indispensable? Qu'avait-il à communiquer? Je ne peux pas croire que sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu a choisi le tiers d'un verset entièrement pour ne rien dire. Donc, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avait une vérité à communiquer à l'église de Philippe en utilisant ces expressions. Et je pense, pour ma part, que l'apôtre Paul était en train de dire à l'église de Philippe, « Vous avez un statut particulier. Vous avez une position particulière. Vous avez un statut particulier à mes yeux. Vous avez un statut particulier aux yeux de Dieu. Vous êtes mes bien-aimés. Vous êtes mes très chers frères et sœurs dans la foi. Voici le message que l'apôtre Paul voulait communiquer à l'église de Philippe. Il voulait que l'église de Philippe prenne conscience d'un statut particulier qu'ils avaient à ses yeux et qu'ils avaient aux yeux de Dieu. Et cette expression « bien-aimé » est davantage plus intéressante quand on la considère dans la perspective globale du Nouveau Testament. Vous savez que cette expression était tellement spéciale que dans le Nouveau Testament, cette expression n'apparaît que deux fois dans les évangiles. Seulement deux fois. Et toujours dans le lien affectif qu'il y avait entre le Père et le Fils. Vous vous rappelez? Et dans deux événements quand même essentiels, importants dans l'histoire de Jésus-Christ, son baptême et sa transfiguration. C'est à ces deux moments seulement dans les évangiles que cette expression a été utilisée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, l'apôtre Paul s'est fort de ce statut de l'église de Philippe, des chrétiens de Philippe, qui leur adresse cette dernière recommandation dans sa lettre que nous avons vue aujourd'hui. Et ce statut, il sert à quelque chose. C'est fort de ce statut que toutes les recommandations qu'on va voir tantôt, et c'est dans cet esprit que ces recommandations vont être données. Voici comment je résumerai l'exposé aujourd'hui. Les chrétiens mènent un combat pour la cause de l'Évangile. Pour y parvenir, ils doivent s'appuyer sur la force de Christ et sur leur unité. Cela exige une bonne dose de joie et de réconciliation. Laissez-moi répéter le résumé de notre exposé ce matin. Les chrétiens mènent un combat pour la cause de l'Évangile. Pour y parvenir, ils doivent s'appuyer sur la force de Christ et sur leur unité, et cela va exiger une bonne dose de joie et de réconciliation. Et ce résumé met la table sur notre exposé ce matin en trois parties. Première partie, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir d'abord que notre joie dans le Seigneur nous produit en nous une certaine force, une certaine fermeté dont nous avons besoin dans notre marche au quotidien avec le Seigneur. Ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons qu'en étant réconciliés avec Dieu d'une part et les uns avec les autres, nous jetons ainsi les bases de l'unité du corps de Christ. Et enfin, nous allons voir dans la dernière partie comment la force qui nous est donnée par la joie que nous avons en Christ et l'unité qui est le résultat de notre réconciliation avec Dieu d'une part et dans notre réconciliation les uns les autres constituent les piliers essentiels pour la proclamation, pour le combat de l'Évangile. Voici les trois parties de l'exposé ce matin. D'abord, la joie, le fondement de la force. La joie dans l'amour est un état d'esprit. Reprenons notre texte dans Philippiens 4, le verset 1. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. En réalité, il existe deux types de possessions, c'est-à-dire deux types de choses qu'on peut avoir. Il y a des choses qu'on peut posséder qui nous viennent de l'extérieur. C'est-à-dire des choses qu'on peut posséder qui nous viennent de l'extérieur. Il y a des choses qu'on possède qui sont en dedans de nous-mêmes. Naturellement, les choses qu'on possède qui viennent de l'extérieur ont cette particularité, c'est qu'on peut les posséder d'un moment à l'autre, on ne les a plus parce qu'on les a perdues. Mais les choses qu'on a de l'intérieur, souvent ce sont des choses qui sont difficiles à perdre, voire même impossibles à perdre, parce qu'ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand ici l'apôtre Paul nous parle de la joie, il ne nous parle pas de la joie comme une chose extérieure que nous devons posséder, mais il nous parle de la joie comme étant une chose à l'intérieur de nous-mêmes. J'oserais même aller plus loin en disant que c'est un peu comme la joie, c'est un peu comme subir une transformation génétique. C'est un peu comme changer votre ADN. Donc, l'ADN, c'est ce qui caractérise chaque individu. Mais c'est un peu comme changer votre ADN. C'est que vous devez posséder désormais un nouveau gène. Ce gène s'appelle la joie. C'est un gène. Il faut qu'il soit inscrit dans votre ADN. Si vous ne l'avez pas dans votre ADN, vous allez le posséder tantôt et comme c'est extérieur, vous pouvez le perdre l'instant d'après. Mais si vous l'avez built-in à l'intérieur de vous-même, si vous l'avez dans votre ADN, alors vous êtes sûr que vous pouvez le posséder pour longtemps. Et si on fait attention, si on ne fait pas attention, on peut croire que quand on lit ce premier verset qu'on vient de lire, on peut croire que c'était les Philippiens qui faisaient que Paul était joyeux. Mais il n'en est rien. Les Philippiens étaient plutôt l'objet sur lequel la joie de Paul était portée. Parce que la vraie réalité, c'est que l'objet, ce qui justifiait la source de la joie de Paul, était plutôt intérieur. La source de la joie de Paul était intérieure. Les Philippiens sont l'objet sur lequel cette joie portait naturellement, mais ce n'était pas la source de cette joie. Seule la présence constante, le choix volontaire que Paul a fait d'être dans la présence de Dieu justifiait cette transformation génétique majeure. Et c'est ce qu'on lit d'ailleurs dans les dans le psaume 16, le verset 1. Regardez avec moi ce que l'Écriture dit. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » À bien y réfléchir, quand on lit ce texte dans psaume, on sait que la transformation génétique dont je parle, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que cette transformation génétique commence à un certain moment. Et le moment où elle commence, c'est quand nous nous tournons vers l'Éternel. Quand nous nous consacrons à l'Éternel, c'est là que le processus de transformation débute dans notre vie. Ce processus de transformation, c'est un peu comme les gènes que nous recevons par hérédité. Si vous souffrez, par exemple, de pression artérielle, d'une haute pression artérielle, et que vous voyez, vous allez voir un médecin, souvent la première question qu'il va vous poser, c'est de savoir est-ce que vos parents souffraient des mêmes choses. Pourquoi il pose cette question? C'est pour établir, est-ce qu'il y a un lien d'hérédité pour justifier que vous souffrez de cette haute pression? Donc, c'est exactement la même chose. La joie dont nous parle l'apôtre Paul ici, c'est une joie qu'on doit hériter. Et il faut qu'on l'hérite de quelqu'un, parce qu'on ne l'a pas naturellement. On doit l'hériter. Cette transformation génétique, en réalité, c'est une transmission génétique. Il faut qu'on l'hérite de quelque part. En fait, là, c'est la joie que l'Éternel lui-même donne. C'est l'Éternel qui possède en réalité cette joie et nous le transmet de façon héréditaire à partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur et que nous nous consacrons à lui, que nous nous présentons, comme le psaume 16 nous le dit, nous nous présentons devant sa face. Regardez avec moi comment le prophète, comment il est écrit, la même idée est transcrite dans le livre de Néhémie par Esdras qui explique cette réalité au peuple d'Israël. Regardez Néhémie 8, le verset 10, la partie B du verset 10. Il est écrit, car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Mais le passage ne commence pas par ça. Le passage commence par le fait que c'était un jour qui était consacré à l'Éternel. Donc, la joie que nous possédons, la joie que Paul possédait, avait sa source dans quoi? Avait sa source dans le fait qu'il l'avait reçu lui-même, comme la joie que nous possédons, il faut que nous le recevons nous-mêmes de l'Éternel. Et c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui comme vérité, c'est que si nous nous tournons vers l'Éternel, si nous lui consacrons nos vies, alors il est capable de produire une transformation génétique, une transmission génétique dans notre vie et venir placer le gène de la joie dans notre cœur. Il va placer dans notre cœur le gène de la joie en sorte que c'est une joie qu'on ne peut pas perdre. Parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est désormais dans notre ADN. Bien-aimés, La couronne de la joie, je fais un jeu de mots ici, la couronne de la joie, c'est la force. L'apôtre Paul nous parle du fait que les Philippiens étaient sa joie, mais aussi sa couronne. La couronne de la joie, c'est la force. Regardons toujours le premier verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Néhémie, donc dans l'exhortation que Esdras donnait dans le livre de Néhémie, nous voyons clairement que la conséquence immédiate de la joie qu'on a dans l'Éternel, c'est la force. C'est ce que Paul aussi affirme ici dans le texte qu'on vient de lire, dans le verset 1 aux Philippiens. Il les exhorte en quoi ? À être fermes. En toutes circonstances, que ce soit des circonstances favorables ou non. Il dira d'ailleurs ailleurs dans les Écritures, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Et souvent, l'erreur que nous commettons, c'est qu'il est facile de penser que la joie est liée aux victoires ou à ce que nous considérons comme tel. C'est-à-dire, dans les victoires, parler de joie dans les victoires, c'est comme naturel. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Il faut changer notre perspective. Si nous ne changeons pas notre perspective, nous pouvons croire que la joie est liée aux victoires. Mais la joie n'est pas forcément liée aux victoires. Il faut adopter la perspective de Christ sur notre vie pour avoir cette joie. Remarquez vous-même comment Jésus enseigne cette vérité à ses disciples qui, eux, revenaient d'une campagne victorieuse de miracles. Les disciples sont allés faire une campagne, ils sont revenus vraiment, vraiment heureux parce qu'ils ont eu des victoires éclatantes. Voyez avec moi dans Luc 10, versets 16 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Bien-aimés, souvent notre regard est ici et maintenant. C'est ça notre regard, notre perspective, c'est ici et maintenant. Alors que ce que Dieu désire, c'est que nous ayons une autre perspective, c'est là-bas auprès de lui pour l'éternité. C'est ça la perspective de Christ pour notre vie. Ce n'est pas ici et maintenant. Nous sommes toujours focalisés sur ici et maintenant, alors que Dieu veut que nous soyons focalisés sur là-bas auprès de lui pour l'éternité. Si la joie que procure notre consécration en Christ nous donne de demeurer ferme en ayant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ vers cette visée éternelle, cela devait nous pousser inévitablement à chercher à être en compagnie des gens qui partagent les mêmes convictions que nous, qui partagent le même désir que nous de voir non seulement les victoires que Dieu nous donne, parce que Dieu nous donnera des victoires, mais surtout de voir notre nom écrit dans le livre de vie. Et mieux encore, pas seulement nos noms, mais ce qu'on désire, c'est que le nom du plus grand nombre soit inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, c'est la mission à laquelle nous sommes invités. Est-ce que ici, vous savez que vous êtes tous des ministres? Une fois, deux fois. Vous êtes tous des ministres. Vous avez un ministère. Vous êtes des ministres. Ce n'est pas seulement Trudeau qui a des ministres, ni Legault qui a des ministres. Nous aussi, on a des ministres. Ils sont dans cette salle. Vous êtes des ministres. Alors, si vous êtes un ministre, vous devez avoir un portefeuille. Un ministre, ça a un portefeuille. Ça dit ça, les activités auxquelles il est responsable. Et vous, votre ministère, c'est proclamer l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça le ministère dont vous avez la responsabilité. Et en particulier, le ministère de la réconciliation. Si les chrétiens devaient avoir un titre qu'ils devraient affectionner sur leur carte de visite, ils devaient pouvoir tous mettre sur leur carte de visite leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, mais surtout leur titre, ministre de la réconciliation. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder ce matin. La réconciliation, c'est le fondement de l'unité. Allons dans notre texte de Philippiens. Philippiens 4, on va lire les versets 2 et la première partie du verset 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle compagnon, oui, je te prie de les aider. Et comme nous l'avons appris et que nous allons apprendre dans la suite de l'exposé, on voit bien que ces deux femmes, Évodie et Saint-Tiche, étaient de toute évidence des femmes très influentes dans l'église de Philippe et qui avaient probablement et certainement, d'après ce que nous savons désormais, contribué à l'évangile, à la proclamation de l'évangile aux côtés de Paul et de ses compagnons d'œuvre. Mais ces deux femmes étaient tellement à couteau tiré, ils étaient tellement en conflit, ces deux femmes, qu'une simple exhortation n'était pas suffisante pour les réconcilier. Alors, Paul fait appel à un de ses bien-aimés afin qu'il leur vienne en aide. Il est donc indispensable, et c'est ce que Paul nous révèle, que quelqu'un puisse y consacrer du temps, des efforts et de l'énergie pour pouvoir accompagner ces deux femmes à se réconcilier. Voici notre ministère, un ministère de réconciliation. La réconciliation est un ministère, bien-aimé, et il y a deux dimensions à ce ministère. La première réconciliation qui mérite d'être célébrée, c'est notre propre réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation a coûté quelque chose. Notre réconciliation avec Dieu a coûté la vie à Jésus-Christ. Ça a pris la mort de Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et l'apôtre Paul l'enseigne aux Corinthiens en ces termes de façon très claire et précise. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20, « Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le ministère de la réconciliation a un prix, l'apôtre Paul nous le rappelle, ça coûtait la vie à Jésus-Christ. Le chrétien, ainsi réconcilié avec Christ, reçoit à son tour un ministère. Et le ministère, c'est celui de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ce que j'y qualifie la dimension verticale de la réconciliation. Et pour y parvenir, nous devons soutenir en permanence, toujours, l'Évangile et mener un combat de réconciliation qui va faire en sorte que nous soyons, comme le dit l'apôtre Paul, de dignes ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Nous avons été envoyés exprès sur la terre comme enfants de Dieu pour être les représentants, les ambassadeurs. Et nous portons un ministère, le ministère de la réconciliation, qui nous permet de venir proclamer la réconciliation entre Dieu et les hommes, et c'est ce que nous proclamons. Un tel rôle exige, bien aimé, d'y mettre des efforts et de la volonté. Imaginez une ambassade, une représentation diplomatique d'un pays, par exemple au Canada, mais qui a des conflits internes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'ambassade, les gens ne s'entendent pas. L'ambassadeur, les autres employés, ils ne s'entendent pas. Mais ils sont censés représenter leur pays. Comment pourront-ils assumer leurs responsabilités vis-à-vis de l'extérieur si eux-mêmes, à l'intérieur, ils ne s'entendent pas? Bien-aimés, nous avons cette responsabilité de régler les problèmes à l'intérieur. C'est ce à quoi l'apôtre Paul appelle Évodie et Saint-Tiche, ces deux femmes. Donc, c'est ce que j'appellerais la dimension horizontale de la réconciliation. Donc, il y a une dimension verticale, c'est notre réconciliation avec Dieu, la réconciliation des hommes avec Dieu, Mais il y a une dimension horizontale, c'est que nous devons être réconciliés les uns avec les autres. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas si on veut, c'est un impératif. Comment pouvons-nous convaincre les gens du dehors si à l'intérieur, nous ne sommes pas unis les uns avec les autres? Si ton frère ou ta sœur, pour qui Christ est mort, avec qui tu vas passer l'éternité, si tu n'es pas capable de vivre avec lui, comment pourras-tu prêcher la parole de réconciliation entre Dieu et les hommes? Comment est-ce possible? Alors, tu sers d'un mauvais exemple et d'un mauvais témoignage. Quel impact? Ce que l'apôtre Paul désirait voir dans le verset 2 qu'on a lu, c'est de voir de nouveau Évodie et Saint-Tiche, main dans la main, allant dans la ville de Philippe pour proclamer l'évangile. Imaginez quel impact! Quel impact ces deux femmes auraient encore si elles pouvaient se réconcilier, se tenir main dans la main et aller dans la ville de Philippe pour annoncer l'évangile. Et on aurait pu penser que cette parole est vraie seulement si on a un différend, si on a un conflit. Mais la parole, elle est vraie, qu'on ait un conflit ou pas, la parole qui a été adressée ici à Évodie et Saint-Tiche s'applique à tous les chrétiens. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. Regardons Romains 12, le verset 17 à 21. Et naturellement, pour que la réconciliation soit possible, cela prend des sacrifices. Cela prend des sacrifices pour que la réconciliation soit possible. Il faut que dans le cas d'Évodie et Saint-Tiche, qu'ils cherchent la paix l'une et l'autre. Que les deux femmes cherchent la paix l'une et l'autre de façon volontaire. Voyez ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains. Romains 12, 17 à 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Bien-aimés, voici ce que Paul voulait enseigner à ces deux femmes. Bien que Paul et que les Écritures ne nous disent pas quelles étaient les causes du différend entre Évodie et Saint-Tiche, je peux vous confirmer une vérité. C'est qu'on connaît l'auteur de ce différend. Il s'appelle Satan. L'auteur de ce différend, il s'appelle Satan. Et même si ce n'est pas le cas, il s'en réjouissait tout au moins. Il s'en réjouissait de voir ce conflit entre ces deux femmes qui pourtant sont deux citoyennes du royaume de Dieu. Voilà comment le grand Charles Spurgeon l'exprime mieux que moi. Voici ce qu'il dit. Satan déteste toujours la communion chrétienne. C'est sa politique de garder les chrétiens séparés. Tout ce qui peut séparer les saints les uns des autres, il s'en délecte. Il attache beaucoup plus d'importance que nous aux relations pieuses. Puisque l'union fait la force, il fait de son mieux pour promouvoir la séparation. Tous chrétiens, en particulier tous les leaders, sont appelés à soutenir le combat spirituel en s'opposant à Satan dans son envie de nous séparer, de semer des divisions et des conflits au milieu du peuple de Dieu. De grâce, bien-aimés, ne négligeons pas cette responsabilité. Ne négligeons pas la responsabilité qui nous incombe de rechercher la paix avec tous nos frères et sœurs. C'est vraiment important. La couronne de la réconciliation, c'est l'unité. Le ministère de la réconciliation vise à soutenir l'unité des croyants. On ne se réconcilie pas par plaisir, on se réconcilie pour être un. Aux yeux de Paul, c'est vraiment même la vocation du chrétien de désirer être un avec ses frères et sœurs dans la foi. Paul ne le dit pas seulement à ces deux femmes qui étaient à couteau tiré, mais Paul le dit à tous les chrétiens. Et c'est vraiment important que nous puissions apprendre cette réalité. Voici comment Paul l'exprime dans Éphésiens 4, les trois premiers versets. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme on peut le remarquer dans ce verset, il est clair, cette exhortation aux Éphésiens nous concerne. Et la réconciliation exige des sacrifices. Ça exige l'humilité, ça exige la douceur, ça exige la patience. Ce sont des ingrédients indispensables pour se supporter. Je ne sais pas si Évodie Saint-Tiche se saluait. Je ne sais pas, je n'étais pas présent. Je n'étais pas dans cette église. Mais y a-t-il quelqu'un que quand tu arrives le matin ici à l'église de l'Espoir, tu t'arranges pour que tu ne sois pas dans son angle de vision? Ah, je dis ça comme ça, ça c'est jamais ici à l'Espoir. Y a-t-il quelqu'un que si tu crois sur le trottoir, tu es obligé de faire semblant que tu ne l'as pas vu et tu changes de trottoir? Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Mais bien aimé, ce que la Bible nous enseigne, c'est que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Le verset 3 confirme cette perspective éternelle que l'apôtre Paul avait et nous allons poursuivre dans ce sens. Troisième partie de l'exposé, la force et l'unité, deux piliers pour l'Évangile. Allons regarder ensemble le verset 3. Voici ce qui est écrit dans le verset 3. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, avec Clément et les autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » On voit encore une fois le cœur de Paul. On voit la perspective de Paul. Et cette perspective que Paul avait n'était pas seulement vraie pour Évodie et Saint-Tiche, ni pour les chrétiens de l'église de Philippe. Cette perspective était vraie pour tous les chrétiens, où qu'ils soient. Ce que Paul demande et ce que Paul veut rappeler, c'est qu'il voudrait que Évodie, Saint-Tiche, Clément et les autres compagnons, tous, ils voudraient qu'ils voient la destinée finale qui était la leur. Ils ont leur nom écrit dans le livre de vie. Donc, il était urgent. Il était urgent que la personne avec qui tu vas passer l'éternité, que tu t'entendes avec lui maintenant. On s'entend. Ces deux sœurs étaient des citoyennes du royaume de Dieu. Ils allaient se retrouver à la table du Seigneur, au même endroit pour célébrer le Seigneur. Imaginez que ces deux femmes ne se réconcilient jamais. Imaginez les personnes, les dizaines de personnes autour de vous qui vont se retrouver dans le royaume de Dieu avec vous et avec lesquelles vous ne vous entendez pas, vous ne vous réconciliez pas. Quel drame! Quel drame! C'est ce que Paul voulait éviter à ses deux sœurs et à l'ensemble des chrétiens de l'église de Philippe. Extrêmement important d'avoir cela à l'esprit. Maintenant, on peut se poser une question évidente. Pourquoi Paul insistait tant? Pourquoi c'était important? Pourquoi cette réconciliation tenait à cœur Paul? Et c'était tout simplement parce qu'il connaissait bien ces deux femmes. Il disait, OK, c'est quand même deux sœurs que je connais, il va falloir quand même qu'on trouve un moyen. Non, non, c'était beaucoup plus loin que ça. C'était beaucoup plus grand que ça. Paul savait que le combat pour l'Évangile ne pouvait être gagné sans que ces deux sœurs et les chrétiens ne soient unis. Et Paul ne venait pas d'inventer quelque chose. On va voir qu'il le reprend ailleurs. Mais l'unité du corps de Christ est indispensable dans le ministère que nous devons assumer, celui de réconcilier Dieu avec les hommes. Pour atteindre l'objectif de cette mission, il faut que nous soyons un, il faut que nous soyons réconciliés à l'interne nous-mêmes. La force, d'abord, la force au service de l'Évangile. Allons dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Voici ce que la Bible dit. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Pourquoi est-ce que Christ nous rend fermes et inébranlables? La Bible nous dit afin que nous puissions travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Paul désirait ardemment voir les chrétiens de l'église de Philippe travailler de mieux en mieux à la proclamation de l'Évangile. Mais cela n'était pas possible si eux-mêmes étaient chambranlants, si eux-mêmes n'avaient pas une certaine fermeté, s'ils n'étaient pas inébranlables. Et pour avoir cette fermeté, nous avons vu dans notre première partie, ils avaient besoin d'avoir la joie que donne le Seigneur. C'est cette joie qui est à l'origine de notre force. Et c'est cette force qui nous rend ferme et inébranlable. Ça, c'est le premier pilier de la proclamation de l'Évangile. La force qui nous vient de notre joie en Christ à cause de notre identité, de notre perspective éternelle, cette force-là, c'est elle sur laquelle nous nous appuyons comme premier pilier pour proclamer l'Évangile. Mais il y a un deuxième pilier, c'est l'unité au service de l'Évangile. Donc, l'unité, c'est vraiment le deuxième pilier sur lequel la proclamation de l'Évangile doit être bâtie. En effet, si on se souvient de la prière sacerdotale de Jésus, c'est-à-dire la dernière prière que Jésus a faite en faveur de ses disciples, voici ce que Jésus disait, parce que cette notion d'unité pour la proclamation de l'Évangile était tellement importante que Jésus en a fait une de ses dernières recommandations à ses disciples. Voilà ce que la Bible nous dit dans Jean 17, versets 20 à 21. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Nous n'avons pas, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est un impératif d'être un, parce que c'est le moyen par lequel le monde verra que nous sommes de Dieu. Et c'est le moyen par lequel la puissance de la proclamation de l'Évangile va se faire ressentir autour de nous. Comment se manifeste l'unité entre frères et sœurs? Je vous donne juste quatre petits éléments avant de conclure. L'unité se manifeste par notre amour les uns pour les autres avec joie. C'est comme ça que l'unité se manifeste. C'est la joie de se retrouver, la joie de revoir les frères, la joie de communier ensemble, d'être ensemble, la joie de faire des choses ensemble, pas de s'éviter, pas de parler les uns contre les autres. La joie se manifeste de cette manière, donc dans la manifestation de notre amour les uns pour les autres. Premier point. Deuxième point, l'unité implique de vivre les uns avec les autres en harmonie, comme Paul le recommande à ses deux sœurs. Il faut que nous puissions vivre en harmonie. Mais tout chrétien est appelé à vivre en harmonie avec tous les hommes d'une part et en particulier avec les frères et sœurs dans la foi. La Bible nous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et mieux encore, si ce sont vos frères et vos sœurs dans la foi, c'est un impératif. En troisième position, l'unité signifie également de veiller les uns sur les autres. Avec vérité, en soutenant s'il y a lieu des frères ou sœurs qui vivent des moments de conflit, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre du temps, il faut mettre des efforts pour ramener ces frères et sœurs à se réconcilier. C'est ça notre ministère de réconciliation. Et enfin, l'unité signifie de travailler les uns avec les autres pour la cause de l'Évangile. L'unité, c'est de travailler ensemble pour atteindre le même objectif, proclamation de l'Évangile. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin au travers des trois versets que nous avons lus dans Éphésiens 4. Comment je vais conclure? Je vais demander aux musiciens de revenir. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? On peut retenir que le chrétien doit être prêt à livrer un combat pour l'Évangile. Le chrétien doit être prêt à se battre, à livrer un combat pour la proclamation de l'Évangile. La victoire dans un tel combat va nécessiter d'être ferme et uni. C'est les deux piliers. Il faut être ferme et il faut être uni les uns avec les autres, en soutenant exactement le même objectif, celui de proclamer l'Évangile. Mais comment est-ce que nous pouvons y arriver? D'abord, notre joie dans le Seigneur, en ayant une perspective éternelle, en regardant pas ici et maintenant, mais en regardant là-bas avec lui pour l'éternité. C'est notre perspective éternelle qui nous procure cette force, cette joie, cette fermeté. Je sais que rien ne peut m'arriver parce que moi, ma destinée finale n'est pas ici. Ma destinée finale n'est pas ici. Le pasteur Yannick nous disait dimanche dernier, et quoi? Est-ce que nous considérons vraiment que nous sommes citoyens canadiens? Ah non, moi j'ai trois nationalités. Trois nationalités. Et la plus importante reste cette perspective éternelle. J'ai trois nationalités. J'ai un passeport canadien, un passeport togolais et j'ai un passeport céleste. J'ai un passeport céleste. Et quand je regarde, le gouvernement du Canada peut se lever un matin et dire qu'il me retire mon passeport. Vrai? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, il y a des gens qui ont perdu leur nationalité. Le gouvernement du Togo peut me retirer mon passeport. Mais il y a un passeport que personne ne peut me retirer. Personne, ni rien, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons cette perspective? Si nous avons cette perspective, bien-aimé, c'est ce qui fait notre force. Mais il n'y a pas que ça, comme nous avons vu ce matin, notre réconciliation avec Dieu, d'une part, mais surtout les uns avec les autres. C'est ça qui assure l'unité dont nous avons besoin pour que, collectivement, comme un seul homme, que nous puissions nous présenter au monde pour leur dire, voyez, voyez comment nous sommes unis. Voyez comment nous sommes un. Nous ne sommes pas un parce que nous le méritons. Nous ne sommes pas un parce que nous sommes plus smart que vous. Nous ne sommes pas un parce que nous avons quelque chose que vous n'avez pas. Nous sommes un tout simplement parce que quelqu'un nous a rendu un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Alors nous allons leur dire, venez dans la famille. Venez dans la famille. Voyez comment c'est bon d'être dans cette famille. Venez avec nous dans la famille. Ce matin, trois de nos jeunes frères vont se faire baptiser. Et peut-être que vous avez invité des amis. Ils sont en train tout simplement de dire à leurs amis, j'ai trouvé une famille. Pas seulement la famille de l'espoir, mais j'ai trouvé une famille. Elle est partout sur la terre, dans tous les pays, dans tous les continents. Cette famille, c'est la famille de Dieu. La famille avec grand F, la famille de Dieu. Et j'appartiens à cette famille. Et tu peux te joindre à cette famille ce matin. C'est gratuit, by the way. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas de droit d'appartenance. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Tu peux te joindre à la famille. Bien-aimés, j'aimerais seulement que nous puissions retenir le résumé de l'exposé ce matin. Les chrétiens mènent un combat pour la cause de l'Évangile. Pour y parvenir, ils doivent s'appuyer sur la force et sur leur unité. Cela va exiger une bonne dose de joie et de réconciliation. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole ce matin et ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, ce n'est pas par notre propre sagesse ni par notre connaissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin de ce que tu nous permets de réaliser combien nous avons besoin de toi. Combien la force que tu nous donnes, la joie d'avoir cette perspective éternelle, que nous t'appartenons quoi qu'il arrive, nous permet d'être fermes et inébranlables dans notre marche avec toi. Et combien notre union avec toi, en étant réconciliés avec toi, mais surtout aussi en étant réconciliés les uns avec les autres, nous pouvons avoir l'unité dont nous avons besoin pour collectivement proclamer ton évangile et proclamer, Seigneur, cette vérité que tous les hommes ont besoin de se réconcilier avec toi. Éternel, aide-nous. Aide mes frères et sœurs. S'il y a des frères ici et des sœurs ici qui vivent un conflit les uns avec les autres, Seigneur, aide-nous à consacrer du temps et de l'énergie pour les accompagner. Aide ces frères et ces sœurs eux-mêmes à prendre l'engagement et la décision, Seigneur, de chercher la paix avec tous les hommes et en particulier avec leurs frères et sœurs. Et que, Seigneur, par notre unité, que nous puissions avoir un impact dans la proclamation de l'Évangile autour de nous, que ce soit dans nos familles ou dans notre milieu de travail, dans notre école, dans notre collège, dans notre cégep, partout où tu nous placeras, que nous puissions avoir un impact en proclamant l'Évangile. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, ta fidélité, en Jésus-Christ. Amen. Amen.